voulons demander à Dieu sa grâce. Ô Dieu, puisque tu nous dis que par Jésus-Christ nous recevons grâce sur grâce, nous te demandons que cet après-midi nous recevions la grâce que tu nous as réservée, que nous puissions venir à toi avec des mains tendues et accepter ce que tu nous donnes et saisir ce que tu nous promets pour notre joie et notre bonheur éternel. Amen. Alors, mes amis, cet après-midi, en ce 13 février 1982, continuant notre thème à l'écoute des Écritures, nous allons examiner ensemble maintenant ces chapitres que vous avez déjà lus dans vos chambres et sur lesquels vous avez déjà partagé dans vos ateliers ce qui était dans vos cœurs. C'est simplement la suite de l'exposé de ce matin où dans le chapitre 1er de Jean, nous avions lu que la loi nous a été donnée par Moïse et que la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Alors maintenant, nous voulions nous replacer en présence de cette loi qui nous a été donnée par Moïse. Et vous avez ouvert vos Bibles dans le chapitre 5 du Deutéronome, où Moïse, étant arrivé à la fin de sa mission, a groupé tout Israël dans les plaines du Jourdain et leur rappelle tout ce qu'ils ont vécu pendant ces 40 années et particulièrement ce qu'ils ont vécu au pied de la montagne du Sinaï, où Dieu leur avait donné la loi quelques 40 années plus tôt. De sorte que vous trouvez la loi de Moïse dans deux portions de l'Écriture. Dans le chapitre 20 de l'Exode, vous avez la promulgation de la loi sur le lieu même où elle fut donnée, au pied de la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb, dans le Sinaï. Et vous savez, quand on va là-bas, au Sinaï, c'est quand même très impressionnant de regarder cette montagne et de relire ces textes et de voir comment Dieu parlait du haut de cette montagne et tout le peuple rassemblé au pied de la montagne écoutait. Il est dit que même Moïse était tout tremblant en entendant la voix divine. Alors vous pouvez relire vous-même le chapitre 20 de l'Exode qui vous donne donc l'original. Mais au chapitre 5 du Deutéronome, Moïse reprend tout ce qui a été dit au chapitre 20 de l'Exode. Mais si vous lisez au chapitre 19e aussi de l'Exode, vous verrez que c'est le peuple qui a prétendu à Moïse qu'il ferait exactement tout ce que Dieu commanderait. Je lis au verset 7. Moïse vint appeler les enfants du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Et le peuple tout entier répondit : nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et qu'est-ce qu'il disait l'Éternel ? Eh bien, un peu plus haut, il est dit ceci. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela
du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est au Seigneur, mais il dit aux enfants d'Israël, je ferai de vous, au milieu de tous les peuples, un peuple particulier. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors Moïse va auprès des enfants d'Israël et leur dit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et le peuple, entendant Moïse, prétend, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et c'est ensuite que l'Éternel prononce les fameuses 10 paroles. Donc, ils ont prétendu qu'ils pourraient faire tout ce que l'Éternel leur dirait. Alors maintenant, Dieu parle. Et cet événement si extraordinaire que vous venez de relire dans le chapitre 5 du Deutéronome. Je le relis avec vous. Moïse convoqua tout Israël et le écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. C'est donc cette alliance dont il est parlé dans Exode chapitre 20. Et il dit, ce n'est point avec nos pères, c'est-à-dire avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, ce n'est point avec les patriarches que l'Éternel a traité cette alliance. Il n'y avait pas une loi précise pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Ce n'est pas donc l'alliance qui a été faite avec Abraham. C'est une autre alliance, l'alliance du Sinaï. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Voilà Dieu maintenant qui se présente et qui décline qui il est. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, il y a une histoire, et une histoire vraie. Le Pharaon est un homme qui a existé, et nous savons que pendant 400 ans, le peuple hébreu fut les esclaves du Pharaon. Mais Dieu, selon sa promesse faite à Abraham, a visité son peuple et a suscité à ce peuple un libérateur en la personne de Moïse, qui a eu lui-même la vision de Dieu dans ce buisson ardent, justement dans le désert de Sinaï. Et il demande
à ce Dieu qui l'appelle en lui disant « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, va vers le Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et vous savez que Moïse, quand il s'est présenté devant le Pharaon, lui a dit « Qui est l'Éternel pour que je laisse aller ce peuple ? Je ne connais pas l'Éternel. » Alors l'Éternel s'est fait connaître au Pharaon. Plusieurs fois, le Pharaon a été appelé par l'intermédiaire de Moïse, qui lui a montré les signes qu'il était réellement l'envoyé du Seigneur, mais le Pharaon endurcissait son cœur. Et vous connaissez l'histoire des 10 plaies. Et finalement, dans cette fameuse nuit pascale, tous les premiers-nés d'Égypte moururent. Et seuls les premiers-nés des enfants d'Israël furent préservés parce qu'ils avaient obéi au commandement du Seigneur qui avait ordonné qu'on égorge un agneau et que les pères de chaque famille mettent le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux des portes de leur maison. Et ainsi, ceux qui avaient obéi à la parole du Seigneur se trouvaient à l'abri de l'ange destructeur qui passa sur l'Égypte. Et c'est après cette 10e plaie, quand il y eut des morts dans toutes les familles d'Égypte, que le Pharaon a cédé et qu'il a laissé partir le peuple d'Israël. Donc, cette histoire était connue de tous les peuples environnants, et ce peuple d'Israël fut nourri pendant 40 ans dans le désert par une action providentielle de Dieu qui lui envoyait chaque matin, chaque jour, la manne qui leur permit de subsister. Mais si vous lisez avec attention ce livre du Deutéronome, vous voyez que le trajet depuis l'Égypte, depuis le lieu où ils sont sortis d'Égypte, jusqu'au pays de Canaan, aurait pu s'effectuer, savez-vous en combien de temps? En 11 journées. Et s'ils ont mis 40 ans pour faire ce trajet, c'est à cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru la promesse de Dieu. Et chaque fois qu'ils avaient une épreuve, après avoir vu pourtant la mer Rouge se séparer et leur livrer un passage pour être délivrés des armées du Pharaon qui se repentait de les avoir laissés partir et qui les poursuivait, après avoir vu soudainement la mer s'ouvrir et leur donner une si merveilleuse délivrance, de l'autre côté de la mer, quand ils n'ont pas trouvé tout de suite de l'eau à boire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont murmuré. Et ils ont dit à Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir du pays d'Égypte? Et si vous continuez la lecture de ces livres, vous verrez que Dieu dit, voici 10 fois que vous murmurez. Et il décide, à un moment donné, eh bien, puisque vous n'avez pas cru que je pourrais vous faire sortir du pays d'Égypte et vous conduire dans le pays de Canaan, puisque maintenant que vous êtes sortis du pays d'Égypte, vous ne croyez pas encore que je vous amènerai jusqu'au bout, eh bien, vous mourrez dans le désert. Mais vos enfants et vos petits-enfants, eux, entreront dans le pays. Et c'est pour cette raison qu'Israël a tourné dans le désert pendant 40 années. Pendant 40 années, Israël a dû tourner dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération qui était sortie d'Égypte et qui avait vu la puissance du Seigneur meure à cause de leur incrédulité. et leurs enfants et leurs petits-enfants, eux, sont entrés dans ce pays. Alors, je pars maintenant depuis le verset 7, après que Moïse ait rappelé qu'ils ont été délivrés de la maison de servitude, verset 7, Dieu leur dit ceci, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et le premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ce matin, nous avons pris conscience que le vrai Dieu ne se révélait pas complètement en dehors de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ dont nous avons lu quelque chose ce matin, qui est la parole incarnée, c'est le même Seigneur que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Chaque fois que vous avez une apparition de Dieu ou que Dieu parle dans l'Ancien Testament, qui est-ce qui parle? C'est le Seigneur. Que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que vous devez bien comprendre. Il n'y a pas un Dieu dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle en Jésus-Christ, en qui il s'est incarné. Dans l'Ancien Testament, vous avez déjà le Fils qui parle, le Fils dont l'existence est éternelle, mais qui n'a pas encore revêtu un corps de chair. C'est pourquoi on voit toujours dans l'Ancien Testament ces apparitions de Dieu entourées de manifestations glorieuses. Car quand Dieu se présente dans l'Ancien Testament, c'est toujours au sein du feu ou avec toutes sortes de manifestations qui prouve qu'on est en présence de ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de la divinité. Et tous ceux qui ont eu ce privilège de rencontrer Dieu dans l'Ancien Testament ont tous été effrayés, sont tous tombés comme morts et pensaient tous qu'ils allaient mourir car il était dit qu'on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez bien avant que nous allions plus loin, cet après-midi, c'est que celui qui a parlé au Sinaï, c'était déjà le Seigneur, que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Et maintenant, je voudrais simplement faire un petit test, pas pour moi, mais pour vous, aider. Pour que vous sachiez à quoi vous en êtes et quel est le Dieu que vous adorez. Je prends dans l'épître de Jean, premier épître de Jean, c'est avant l'Apocalypse, à la fin du Nouveau Testament. L'auteur de l'Évangile, dont vous avez lu un chapitre ce matin, et au chapitre 4 de sa première lettre, il y a trois lettres de Jean. Chapitre 4 de sa première lettre, il écrit ceci. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu.
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'adversaire du Christ qui est maintenant déjà dans le monde. Je vais vous lire dans le français courant pour que vous puissiez peut-être mieux saisir dans ce langage. Mes amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pourrez savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. C'est très important pour vous, parce que c'est vrai aujourd'hui qu'il y a toutes sortes de faux prophètes. Et qui vous parleront de Dieu. Mais de quel Dieu vous parle-t-il? Quiconque déclare que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'esprit qui vient de Dieu. Les témoins de Jéhovah, par exemple, nient cela. Alors vous savez tout de suite que les témoins de Jéhovah n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils peuvent être très sympathiques, tout ce que vous voudrez, mais leur doctrine n'est pas une doctrine chrétienne. Même s'il parle de Jésus-Christ, parce qu'il ne croit pas à la préexistence du Fils, à l'éternité du Fils. Alors c'est très clair ici, vous êtes tout de suite au courant. Mais quiconque, verset 3, refuse de reconnaître ce fait à propos de Jésus, n'a pas l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qu'il a est celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris qu'il devait venir, et maintenant il est déjà dans le monde. Déjà du temps de l'apôtre, il agissait cet esprit. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes. Car l'esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit qui est dans ceux qui appartiennent au monde. Ils parlent à la manière du monde, et le monde les écoute parce qu'ils appartiennent au monde. Mais nous, nous appartenons à qui? À Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est pas moi qui le dis. C'est ainsi que nous pouvons connaître la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien, notez bien ce passage, car il peut vous être utile bien des fois et d'une façon très rapide. Donc, nous appartenons à Dieu. Si nous reconnaissons que Jésus-Christ, c'est Dieu, manifesté en chair. Si nous ne croyons pas cela, nous ne connaissons pas le vrai Dieu. Ce Dieu qui a parlé au Sinaï et qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est quelque chose, moi, qui m'émeut. Que Dieu vous dise « Je suis ton Dieu ». Ça ne vous fait rien? Ça ne vous dit rien? Dieu est votre Dieu. C'est rien pour vous? Il vous dit qu'il vous appartient et que vous, vous lui appartenez. Il y a une relation, il y a un lien entre vous et Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il veut être votre Dieu et vous avez le droit de dire, tu es mon Dieu est votre Dieu. Ça veut dire qu'il sera pour vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Alors maintenant, premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est donc la répétition du décalogue.
Vous avez ici, peut-être que certains l'ont pris, les 10 commandements que vous avez tous appris par cœur, je pense, quand vous étiez enfants, et qui ont été mis à la portée des enfants. Vous avez peut-être pu voir ces dessins. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est tu ne dois pas avoir d'autre Dieu, je suis ton seul Dieu. Ça, c'est les 10 commandements pour les enfants, qui sont les mêmes pour les grandes personnes. Mais disons simplement ceci, avant d'entrer dans le détail des 10 commandements. La vie d'un peuple comprend 3 domaines principaux. La vie religieuse, avec le culte, qui en est la manifestation. C'est le premier domaine. Ensuite, vous avez dans la vie d'un peuple, la vie de famille. Et troisièmement, dans un peuple, la troisième sphère, c'est la vie sociale. Vie religieuse, avec le culte qui en est la manifestation, vie de famille, et puis vie sociale. Alors, le décalogue, ou les 10 commandements, les 10 paroles, règle sommairement la vie israélite sous ces 3 rapports. La vie religieuse et le culte, vous les trouvez dans les 4 premiers commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxièmement, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Troisièmement, c'est le troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième commandement, observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc, la vie religieuse est comprise dans ces 4 premiers commandements. La vie familiale, elle est comprise dans le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est la vie familiale. Et maintenant, la vie sociale, vous la trouvez dans les 5 derniers commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point faux témoignages contre ton prochain, et finalement, tu ne convoiteras point. Alors, vous voyez que, partant du principe le plus élevé, qui est Dieu, le décalogue descend à travers ces 3 sphères jusqu'au point le plus profond et le plus personnel, le péché qui est à détruire dans le cœur de chaque individu. Vous partez du sommet, vous partez de Dieu et vous arrivez jusque dans le cœur de l'homme où le péché règne. Alors reprenons maintenant le détail. Moi, je suis ton Dieu, donc je t'appartiens comme toi, tu m'appartiens. Est-ce que vous pouvez dire cela ce soir, 13 février 1982, est-ce que c'est là votre relation avec Dieu? Le premier commandement, vous l'avez discerné, maintient l'unité de Dieu. Dieu a choisi ce peuple d'Israël au milieu de toutes les nations idolâtres qui adorent plusieurs dieux, qui ne sont pas des dieux, c'est les forces de la nature qu'ils ont divinisées, alors que Dieu est un Dieu unique. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Quand vous êtes en face de ce commandement, qu'est-ce que vous ressentez?
qui est votre Dieu? Est-ce que vous n'en avez qu'un? Ô Dieu, tu es mon Dieu, comme dit le psalmiste. Je n'ai pas d'autre Dieu, j'en ai qu'un. Est-ce que votre Dieu est le mien? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs dieux? Est-ce qu'il y a un Dieu pour les catholiques, un Dieu pour les protestants, un Dieu pour les orthodoxes? Un Dieu pour les athées? Il y a un seul Dieu qui veut être le Père de tous, de tous les hommes. Donc, le premier commandement maintient l'unité de Dieu. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'on adore? Vous connaissez, le premier commandement était transcrit de cette façon: un seul Dieu, tu adoreras. Écoutez un peu la radio, la télévision. Regardez ce qui est sur les lèvres des personnes qui se présentent. La plupart des gens sont des païens. Ils adorent tout. La chère Hélène Fontaine, la belle Hélène, la belle et la bête. Hein. Jacques Maty. Pas plus tard que hier, je voulais écouter les nouvelles, puis c'était juste la fin de son discours. Quelqu'un lui demandait si elle aimait les crêpes fusées. Oh, j'adore les crêpes. La nouvelle divinité, les crêpes Suzette. J'adore. Mais vous entendrez ça constamment. Et vous, est-ce que vous le dites ça quelquefois? Quand vous aimez beaucoup quelque chose, vous adorez. Pas rien. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Vous n'avez rien inventé. C'est un homme qui s'est converti en France. Un écrivain qui était tout à fait de gauche. Puis qui était saisi par Dieu. Simplement, il s'est dit, mais Dieu est Dieu. Mais qu'est-ce que je suis? Et il a pris Dieu au sérieux. Et il s'est donné à Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras. Quel est votre sentiment dans votre vie? Est-ce que vous connaissez un seul Dieu? Est-ce que c'est lui qui a droit à tous vos hommages, votre adoration? À qui la donnez-vous? Vous êtes net sur ce commandement? Le second commandement, c'est: tu ne te feras point d'image taillée. Vous l'avez maintenant dans toutes vos Bibles, mais pendant longtemps, dans les éditions de l'Église romaine, on l'avait supprimé, parce qu'il était gênant, étant donné qu'on avait fait toutes ces statues dans les églises. Alors on l'avait supprimé, et pour qu'il y ait quand même 10, on avait dédoublé le dernier commandement, tu ne convoiteras point. Alors on arrivait quand même à 10. Mais on avait supprimé, tu ne te feras point d'image taillée. Tandis que maintenant, dans toutes les Bibles, version catholique, on a mis le commandement tel qu'il est. Tu ne te feras point d'image taillée. Alors depuis Vatican II, qu'est-ce que vous avez vu? On dit qu'on a passé la balayeuse, hein, dans beaucoup de maisons et dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup moins d'images. Parce qu'on a réalisé tout à coup qu'en effet, le peuple, au lieu simplement de voir dans cette image une représentation, eh bien, adorait finalement la statue. Et c'est là qu'on en arrivait. Alors, voyez ce qu'il était dit au verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux, c'est la bonne jalousie, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ne dites pas que Dieu n'est pas juste. En visitant l'iniquité des pères jusqu'à la quatrième génération, vous dites, mais enfin, c'est pas juste alors. C'est vous qui n'êtes pas juste, parce que vous avez été averti que si vous faites du mal à vous-même, qu'est-ce qui pourra en souffrir? Vos enfants. Première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. C'est un avertissement pour vous, c'est pas parce que Dieu est méchant, sera méchant pour vos enfants, mais il vous dit, tu es responsable de la santé de tes enfants jusqu'à la quatrième génération. Tu n'as pas le droit de dire, mais moi je bois mais je fais de mal à personne. J'en fais peut-être à moi. Non, tu n'en fais pas à toi seulement. Tu fais du mal à ta descendance. Et pour vous arrêter, pour vous convaincre que vous devez changer de vie, que vous devez vous convertir, le Seigneur vous fait cette remarque. Je visite l'iniquité des pères jusqu'à la quatrième génération. Mais si tu vis comme je le désire, dans mes préceptes, dans mes principes, qu'est-ce que je ferai pour toi? Je te bénirai jusqu'à quelle génération? Mille générations. Alors n'accusez pas Dieu. Accusez-vous vous-même. Comprenez que c'est pour vous avertir, pour que vous ne fassiez pas du mal à vos descendants, que Dieu a dit ces choses. Et c'est merveilleux quand on voit les choses comme on doit les voir. Et nous adorons Dieu pour sa miséricorde et pour sa justice. Alors, tu ne te feras point d'image. C'est-à-dire, si le premier commandement maintient l'unité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, le deuxième commandement maintient la spiritualité de Dieu. Est-ce que vous pouvez matérialiser Dieu? Dieu est esprit. Alors, si vous faites une statue, même si vous dites, mais c'est pas la statue que j'adore, mais ça m'aide. Mais tôt ou tard, vous risquez de baiser la statue. C'est pas une statue. Et ça fausse votre témoignage au sujet de Dieu. Et Israël devait être le peuple qui devait enseigner au monde, qui était idolâtre, qu'il n'y avait qu'un seul. Mais malheureusement, Israël a péché et est devenu lui-même idolâtre. Israël était le peuple qui devait enseigner au monde la spiritualité de Dieu. Dieu est esprit. Et comme le dit Jésus, il faut que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Alors vous n'allez pas baiser une statue. Une statue qui serait votre Dieu. Alors, lisez le chapitre 44 du prophète Ésaïe au sujet de ces statues et des fabricants d'idoles. Je vous lis au chapitre 44 d'Ésaïe, donc après les psaumes et les proverbes, le grand prophète Ésaïe. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou fait une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte.
Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon. Et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore. Voilà. Ça sert à tout. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie « Sauve-moi car tu es mon dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ils ne rentrent pas avant lui-même. Il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire « Je me brûle moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repent de cendres, son cœur abusé l'égard, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Oh, mes amis, ça suffit. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Vous ne serez plus des adorateurs d'idoles. Un seul Dieu, tu adoreras. Tu ne te prosterneras pas devant une statue, devant des images taillées. C'est une abomination aux yeux du Seigneur. Et si même l'Église a conduit le peuple dans cette noirceur, eh bien qu'aujourd'hui, ce peuple comprenne que ce n'était pas la vérité et que là, l'Église a manqué. Et nous en sommes tous responsables. Nous devons dire la vérité à nos prochains. Et je me réjouis qu'avec le Concile de Vatican II, on ait osé remettre le verset dans l'Écriture sainte concernant les idoles. Alors, le troisième commandement, verset 11. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Car l'Éternel, ton Dieu, ne lâchera point puni celui qui prendra son nom en vain. Bien, ce troisième commandement nous présente donc le nom de Dieu, qui renferme pour le peuple tout ce que Dieu lui a révélé sur lui-même. Le nom d'une personne renferme tout ce que cette personne est. Alors, c'est quelque chose de sacré. Mais nous, on dit, c'est le péché en parole, qu'est-ce que c'est? Mes amis, et spécialement au Québec, vous entendez souvent, qu'est-ce que c'est du nom de Dieu? Pour un oui ou pour un non? Ou je sais très bien, vous l'escamotez, vous dites mon doux. Mais ça, c'est aussi prendre le nom de Dieu en vain. Parce que mon doux, qu'est-ce que c'est? C'est mon Dieu. Appelez les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses
que nous devons corriger, même dans notre manière de parler. Quand on est converti au Seigneur, quand on prend sa parole à propos, il y a des choses qui ne passent plus sur nos lèvres. Le nom de Dieu est un nom saint. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Et vous entendez sacré. C'est quelque chose, moi, qui m'a bouleversé quand je suis venu pour la première fois au Canada. C'est de voir que, bon, je sais très bien qu'en France, on dit les saints lettres. Hein. Et même des fois, M. Trudeau. Il met un A au lieu de... Mais, d'une façon générale, j'ai remarqué qu'au Québec, on sort tout ce qui se trouve dans une église pour sacrer. Hein? À un tel point que j'ai entendu un gamin dire à un autre, pourquoi tu dis pas cathédrale, il y a tout dedans. Tabernacle, cabaret, tout ce que vous voulez. Pourquoi tu dis pas cathédrale? Il y a tout dedans, calice aussi, et tout ça. Ben, c'est tout dans la cathédrale. C'est une cathédrale, si tu es fâché. C'est très drôle. Oui, ces choses-là, elles changent. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu. C'est un nom sacré. C'est un nom. C'est comme le nom de Jésus. On ne le met pas à toutes les sauces. C'est le nom du Dieu d'Israël qui a parlé. Maintenant, le quatrième commandement observe le jour du repos pour le sanctifier. Ce n'est pas simplement observer un jour de repos pour le corps physiquement dans la semaine que Dieu a ordonné le sabbat, mais c'est pour que nous ayons du temps pour Dieu, qu'il y ait dans vos jours ouvrables un jour qui soit consacré au Seigneur. Que ce soit le sabbat, le samedi, ou que ce soit le dimanche, je ne peux pas entrer dans ce détail, mais enfin, on peut dire que ce soit les Juifs qui ont transgressé le jour du repos, le sabbat, ou que ce soit les chrétiens, c'est la même chose. Car le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, parce que c'est le jour de la résurrection du Christ, bien, le dimanche, il est constamment profané. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Est-ce qu'on conserve le dimanche pour Dieu? Le premier jour de la semaine chez les chrétiens, est-ce qu'il est vraiment établi pour nous donner du repos physique et pour glorifier Dieu? Pour le prier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes. Même les bêtes devaient se reposer, pouvaient se reposer, ni l'étranger qui est dans tes portes. Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. C'est tellement beau. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le repos. Honore le repos. Voilà. C'est donc les 4 commandements qui régissent la vie religieuse d'un peuple et sa manifestation. La vie religieuse se manifeste aussi dans ce témoignage du jour du Seigneur. Maintenant, nous avons dit qu'il y a la vie familiale. Alors, nous arrivons au 5e commandement. 5e commandement, honore ton père et ta mère. C'est le verset 16e. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
le Seigneur Jésus a repris ses paroles et a montré dans l'évangile de Marc que c'était une des premières choses qui devait caractériser un véritable enfant de Dieu, c'est de prendre soin de son père et de sa mère. Même avant de faire un don à l'Église, il est préférable de donner à ses parents qui seraient dans la peine ou dans la pauvreté. Et de ne pas dire, comme vous le lisez dans le chapitre 7 de Marc, Jésus disait ceci au verset 9 du chapitre 7 de Marc. Vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre enseignement. Moïse a dit en effet, respecte ton père et ta mère. Parce que c'est ça, honorer son père et sa mère. Et aussi, celui qui dit du mal de son père ou de sa mère doit être mis à mort. Mais vous, vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère la part de mes biens que je pourrais utiliser pour t'aider est corban, ce qui signifie est un don que je réserve à Dieu, il n'a plus besoin d'aider son père et sa mère. Vous le lui permettez. De cette façon, vous détruisez la valeur de la parole de Dieu par l'enseignement que vous vous transmettez les uns aux autres. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc vous voyez que Jésus a confirmé les commandements de Moïse. Honorer son père et sa mère, c'est respecter ses parents, c'est avoir des égards pour eux, et c'est en prendre soin. Et l'apôtre Paul nous dit que quelqu'un qui n'a pas soin des siens, il est pire que quoi ? Il est pire qu'un incrédule. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un incrédule. Parce que ça, c'est le commandement du Seigneur. Voulez-vous être béni ? Revenez à ces paroles. Passons maintenant au saint dernier commandement, donc de la dernière table de la loi, et qui régit la vie sociale. Quel est le bien le plus précieux qu'un homme puisse avoir ? La vie. Alors, tu ne tueras point. C'est la vie, le bien le plus précieux de l'homme. Tu ne tueras point. M'en vais pas plus loin. Vous me direz, ben, ça ne nous a pas touché. Si on avait tué, on serait en prison. C'est pas sûr. Il y en a qui ont tué et qui ne sont pas encore en prison. Et vous savez, il y a différentes manières de tuer. L'Écriture développe ce commandement en disant, celui qui n'aime pas son frère, qu'est-ce qu'il est ? Il est un meurtrier. Alors attention, tu ne tueras point. Et c'est le bien le plus précieux. Alors, nous n'avons pas le droit d'ôter la vie à notre prochain. Le septième commandement, c'est quoi ? Tu ne commettras point adultère. Après la vie, le bien le plus précieux de l'homme, c'est son foyer. Et c'est sa femme qui en est le centre. Lisez le chapitre 31 des Proverbes. Et vous verrez ce que peut être une femme au foyer. Proverbes chapitre 12 aussi, le verset 4. Tu ne commettras point adultère. L'adultère est à la vie de famille ce que le meurtre est à la vie individuelle. Comprenez-le bien. L'adultère est à la vie de famille ce que le meurtre est à la vie individuelle. Alors, pour que les enfants puissent comprendre ici que tu ne commettras point adultère, il est dit, mari, reste avec ta femme et toi, femme, avec ton mari.
pour que le foyer ne soit pas détruit.
Et crois que même la vie de ton foyer qui te paraît empoisonnée,
crois que cette vie peut être changée par le Seigneur. Passons plus loin. Le 8e commandement, qu'est-ce que c'est ? Tu ne déroberas point. La vie de famille repose sur la propriété. Alors, attaquer celle-ci, c'est porter atteinte à celle-là. C'est pourquoi il a dit, tu ne déroberas point. Ce commandement défend toute espèce d'acte par lequel nous portons injustement atteinte à la propriété du prochain. C'est pas seulement dérober, visiblement, c'est pas seulement le vol à main armée qui est condamné ici, mais peut-être dans les affaires que nous faisons, quand sciemment nous faisons du tort à notre prochain, que nous le savons, nous ne volons pas, c'est pas quelque chose qui prenons comme cela, mais quand nous ne sommes pas justes dans nos affaires et équitables, que nous nous enrichissons aux dépens des autres, nous sommes des voleurs. Prenez maintenant le 9e commandement, c'est « Tu ne diras point de faux témoignages ». Et je dirais ici que la bonne réputation vaut mieux que la richesse, comme dit Proverbe 22, verset 1. Enlever à un homme son honneur est une chose pire encore que de le dépouiller de son avoir. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous enlevez à un homme son honneur, vous faites quelque chose de pire que de le dépouiller de son avoir. Et on peut détruire quelqu'un. Et c'est pourquoi ce commandement est très important. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, ces quatre derniers commandements caractérisent le péché dans ses manifestations extérieures. Le meurtre ou le crime, le vol, ça se voit. L'adultère, le faux témoignage, ça s'entend. Ces quatre commandements décrivent le péché dans ses formes extérieures. Mais le 10e commandement, par lequel se termine le décalogue, est une parole qui poursuit le mal à la racine, dans les dernières profondeurs de l'âme. Ça va jusqu'où ? Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Ça va jusqu'à ce désir d'avoir et de jouir, qui est le principe de la violation de tous les autres commandements. Pourquoi est-ce que je tue ? J'ai visité bien souvent dans ma jeunesse les prisons, puisque je travaillais parmi les prisonniers aussi. J'ai vu des hommes qui avaient tué. Et croyez-vous qu'ils ont comme ça tué tout de suite? Non. On a eu de la haine dans son cœur. On a tué mentalement. On a supprimé quelqu'un intérieurement. Puis après, on l'a fait. On a passé à l'acte. Maintenant, ceux qui ont volé, croyez-vous qu'ils ont volé comme ça tout de suite? Ils se sont habitués à prendre ce qui n'était pas à eux. Ils ont convoité ce qui ne leur appartenait pas. C'est donc dans la pensée qu'il y a eu le mal, la convoitise, et on a passé à l'acte. Dans l'adultère, est-ce que dans un foyer on est tombé comme ça tout de suite dans l'adultère? On a convoité tout de suite la femme ou le mari de l'autre? Non. Il y a eu des pensées. Tout ça s'est fait dans le cœur. Et c'est là le premier péché. Tout vient de là. Tout vient du cœur. C'est Jésus qui vous le dit dans le chapitre 7 de l'évangile de Marc. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, l'envie. Alors voilà les commandements de Dieu. Vous les avez, nous les avons passés en revue simplement. Et maintenant, je vous dis, vous vous dites, arrêtez vous-même. Quel est le sentiment que vous avez eu devant ces commandements? Vous êtes blanc, plus blanc que neige? Pour que ce soit complet, il faudrait que vous repreniez le sermon sur la montagne que je vous invite, non, c'est pas celui-là, c'est un autre, là, il est là-bas, hein, à reprendre, où vous verrez Jésus qui reprend tous les commandements et qui dit, Moïse vous a dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que quand vous vous mettez légèrement en colère, vous êtes déjà sur le chemin du crime. Moïse vous a dit, tu ne commettras point adultère. Mais moi je vous dis, quand vous avez regardé une femme pour la convoiter dans votre cœur, vous avez déjà commis adultère. Alors, si nous n'avons pas été touchés par la lettre de la loi, allez écouter Jésus commenter ce sermon, la loi de Moïse, dans le sermon sur la montagne. Alors, nous terminons la lecture, verset 22. Du Deutéronome. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Donc c'est complet ces commandements. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu aujourd'hui. Nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, qu'est-ce qui arrivera? Nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix de Dieu, du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Et qu'est-ce qu'on demande à Moïse? Approche-toi. Et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu, et nous l'écouterons et nous le ferons. Donc, si Dieu ne vous parle plus comme il a parlé à ce moment-là, c'est pourquoi? Parce que les hommes ont dit, nous ne pouvons plus entendre cette voix. Alors c'est le silence. Vous voudriez que Dieu vous parle encore de cette manière-là? Mais il a parlé. Ça suffit. Ces paroles sont à vous. Elles sont là devant vous. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur. Retournez dans vos tentes, mais toi reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements et les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné, vous ne vous en détournerez point, ni à droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Ainsi parlait le Seigneur. Alors maintenant, est-ce que nous pouvons répondre aux questions que nous nous sommes posées? La première, face au commandement de Dieu, qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que moi je ressens quand je me prends place devant cette loi? Rien? Ça ne vous a pas touché sur un pont ou sur un autre? Quand Job, un homme si pieux, a entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai horreur de moi. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est ce qui arrive quand on prend Dieu au sérieux. Ésaïe, le prophète, quand il a vu la gloire du Seigneur, il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Une rencontre avec Dieu, ça nous met par terre. Parce que Dieu est Dieu. Puis tout à coup, on découvre ce que l'on est. Et qu'est-ce que l'on est? Devant la loi. Qu'est-ce que ça nous convient? Ça nous convainc de quoi? Ça nous convainc de péché. Et je pourrais prendre d'autres hommes qui se sont trouvés dans la présence de Dieu et qui se sont effondrés. Jean, par exemple, le disciple que Jésus aimait. Quand je le vis, je suis tombé là comme mort. Et puis nous pourrions rester en disant, mais je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Vous connaissez ces histoires. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis adultère. Mais encore, si tu n'as pas tué, tu n'as pas émis. Si tu n'as pas volé, tu n'as pas donné. Si tu n'as pas commis adultère, tu n'es pas encore un saint dans tes pensées. Qui ne peut pas s'accuser de convoitise? Alors je me dis, mais la loi, oui, elle me dit que Dieu... Que Dieu désire, ce que Dieu voudrait de moi, qui prétend, je veux suivre ta parole, mais qu'est-ce que je découvre avec la loi? Je ne suis pas capable de faire. Voilà ce que vous devez découvrir, que vous êtes sans force, que vous ne pouvez pas accomplir la loi de Dieu. Que si vous vous placez sous la loi, vous êtes sous la malédiction. Vous ne serez jamais heureux si vous prenez comme principe la loi. La loi, elle est bonne, elle est sainte, elle est parfaite. Lisez le chapitre 7 des Romains, c'est vrai. La loi est sainte et juste et bonne. Votre conscience reconnaît que c'est juste ce que Dieu a dit là. Juste vis-à-vis de lui, juste vis-à-vis de nos parents, de la vie familiale, et juste vis-à-vis de la vie sociale. Parce que s'il n'y a pas de loi, qu'est-ce qui arrive? C'est l'anarchie. C'est la pire des choses, quand il n'y a plus de loi. Nous devons donc respecter la loi. Mais, c'est dur, nous ne pouvons pas l'accomplir. Eh bien, c'est justement pour cela que Dieu a donné la loi. Pour nous convaincre de pécher. Et si nous sommes donc pécheurs, nous sommes coupables, et comme je le disais ce matin, qu'est-ce que nous pouvons désirer alors? Qu'est-ce qui peut nous arriver si nous sommes coupables? Comment pouvons-nous être sauvés? Par la grâce. Et alors, qui nous apportera la grâce? C'est Jésus. La loi a été une étape dans les voies de Dieu à l'égard des hommes pour convaincre les hommes de pécher, afin qu'ils supplient Dieu, qu'ils arrivent à demander à Dieu sa grâce. Et cette grâce nous a été donnée en Jésus-Christ. Et comment? Eh bien, Jésus-Christ, et c'est ça tout le salut, est venu. Et pour ces hommes que la loi condamnait, Jésus-Christ a pris les péchés de tous ces hommes sur lui. Dieu, il est dit dans Saint Paul, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Ces péchés que vous aviez commis, ces péchés qui meurtrissent votre conscience, Jésus vous dit qu'il les a pris sur lui, et que s'il est mort, il est mort pour vos péchés, parce que lui était sans péché. Et c'est ça le salut. Le Christ est mort pour vos péchés, justice est faite, quelqu'un a payé, et maintenant, grâce à cet acquittement de nos dettes, fait par la vie donnée de Jésus-Christ, nous pouvons bénéficier du pardon total de Dieu que nous avions offensé. Donc la loi ne nous a pas été donnée pour nous sauver, la loi nous a été donnée pour nous révéler notre péché. Et alors, quand étant pécheur, m'étant reconnu pécheur, j'accepte mon Sauveur, que vient-il pour moi? Il devient l'objet de mon amour. Nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés, le premier. Il est dit dans l'Épître aux Romains, et c'est ma dernière parole, encore pour un homme de bien, quelqu'un se résoudrait à mourir. Mais le Christ, alors que nous étions sans force, il est mort pour des impies. Voilà où Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous. Quand nous étions encore des pécheurs, quand nous étions encore en pleine révolte contre lui, Christ est mort pour des impies. Et si nous acceptons Jésus, si nous le recevons, nous devenons les enfants de Dieu. Alors je vous pose cette question, êtes-vous enfant de Dieu en cette fin de journée du 13 février 1982, l'avez-vous reçu? La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus. Est-ce que vous êtes maintenant dans la grâce de Dieu? Prions. Ô Dieu, ce que nous ne pouvons pas produire, toi tu peux l'accomplir par ta parole et par la puissance de ton esprit. Tu as parlé, tu as donné ta loi, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous les hommes. Et nous voulons confesser à notre tour que pas plus que le peuple d'Israël, nous n'avons été capables d'accomplir cette loi. Nous reconnaissons devant toi toutes les convoitises de notre cœur et nous sentons bien que nous ne pouvons pas subsister devant toi tel que nous sommes, par nature. Que nous avons besoin d'être couverts et qu'aucune de nos œuvres ne peut nous couvrir devant toi. Pour qui toutes choses sont nues et découvertes. Ô Père, par la puissance de ton esprit, convainc parmi nous nos âmes de péché. Mais amène-nous aussi à croire à ton amour qui a voulu nous donner un salut complet, un salut parfait, pour que nous n'ayons plus besoin de nous occuper de notre propre salut, mais que dans la joie et la reconnaissance, étant sauvés par ton œuvre, ô Jésus, nous puissions vivre à la louange, à l'honneur et à la gloire de Dieu, parce que ce Dieu, nous aurons appris à le connaître et à l'aimer. Et que cet amour versé dans nos cœurs en ce jour produise tous ses fruits à la gloire de Dieu et au bien de Dieu.